Et merci d'avoir choisi Europe 1, il est midi. Votre journal, Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
C'est fait, Pierre. Les négociateurs européens sont tombés d'accord sur un texte. Va-t-on pour autant vers un Brexit avec un accord? Rien n'est moins sûr, car le projet devra être validé par le Parlement britannique. Nous sommes à Bruxelles dès le début de ce journal.
Il va bien falloir qu'on fasse une réforme. Et simplement repousser dans le temps la réforme en disant on verra plus tard, désolé, mais malheureusement, ce n'est pas une solution.
Reculer pour mieux sauter, certains syndicats craignent que la réforme des retraites soit oubliée, d'autres le souhaitent. Nous verrons pourquoi l'exécutif décide de reporter peut-être cette réforme. Troisième nuit d'émeute à Barcelone, les Catalans protestent contre les sanctions prononcées envers les indépendantistes. Reportage à suivre.
Le voile, ça n'est pas une casquette ou un serre-tête, ça n'est pas un bout de tissu anodin.
Marine Le Pen pour l'interdiction du voile en France. Il défend une vision radicale de l'islam. Elle l'a dit ce matin sur Europe 1. Nous serons au Kurdistan syrien. Notre correspondant Guillaume Perrier a réussi à pénétrer la zone. La mort de Patrick Day, le boxeur de 27 ans, s'est effondré KO lors de son combat samedi à Chicago. Il est le troisième boxeur à mourir depuis le début de l'année sur un ring. Et puis Mein Kampf, réédité l'an prochain. Quel est l'objectif? Alors que le livre d'Hitler est disponible sur Internet en un seul clic. La météo, Céline Dacosta, retour de quelques éclaircies après une matinée bien grise.
Oui, des éclaircies qui reviennent par le nord-ouest avec de bonnes rafales de vent et encore un risque d'averse. La pluie, elle est bien présente du sud-ouest au nord-est. On a aussi quelques éclaircies près de la Méditerranée et sur le relief des Alpes.
Merci Céline, on vous retrouve à midi et demi. Météo complète sur Europe 1.
Europe 1.
C'est donc fait, Pierre. On prend la direction de Bruxelles puisque, ça y est, hein, les négociateurs européens sont tombés d'accord sur un accord sur le Brexit.
Et oui, travail de longue haleine, des nuits de discussion, des semaines de discussion. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour Pierre.
Vous êtes en direct de Bruxelles, c'est donc fait?
Oui, c'est Jean-Claude Juncker qui l'a annoncé sur le réseau social Twitter il y a une vingtaine de minutes. Nous avons un accord juste et équilibré, écrit le président de la Commission européenne. Un excellent nouvel accord, a renchéri quasiment au même moment le Premier ministre britannique Boris Johnson de l'autre côté de la Manche. Concrètement, cela veut dire que les négociateurs britanniques et les négociateurs européens ont réussi à se mettre d'accord sur un texte juridique, un texte qui règle toutes les questions liées au divorce des Britanniques et notamment la question la plus épineuse, celle du futur statut de l'Irlande du Nord, celle qui les occupe depuis des semaines. Évidemment, nous n'avons pas encore tous les détails du texte, mais on sait qu'il prévoyait de donner un statut spécial à l'Irlande du Nord. Si cet accord entre en vigueur, elle devrait garder un pied dans l'Union européenne.
Ouais, et les unionistes nord-irlandais font savoir qu'ils sont toujours opposés à cet accord. Isabelle, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est au bout du processus.
Ben non, parce que alors la première chose à 15h, c'est que les dirigeants européens qui arrivent ici pour leur sommet vont trouver ce texte sur la table. Il faut qu'ils lui donnent leur validation politique pour lancer le processus de ratification du côté européen. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais en parallèle, et là c'est la grande incertitude, il faut que ce texte passe aussi l'obstacle de la validation du Parlement britannique. On le sait bien, c'est là que la précédente version de l'accord, celle de Theresa May, avait échoué. Ça ne sera pas forcément plus simple cette fois-ci. Ce matin, vous l'avez rappelé, le parti unioniste protestant d'Irlande du Nord, qui est en position clé, a dit qu'il n'acceptait pas le projet en l'état. Alors visiblement, Boris Johnson a décidé de tenter le passage en force malgré tout, puisque le vote à la Chambre des communes est annoncé déjà pour samedi prochain.
Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1, en direct de Bruxelles.
Et Boris Johnson lui annonce un excellent nouvel accord de Brexit avec l'Union européenne.
Et l'on rejoint Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. Anaïs, quelles sont les toutes dernières réactions chez vous à cette avancée fondamentale?
Alors ici, maintenant, ce deal doit être approuvé par les députés britanniques, hein, c'est le grand enjeu. Mais pour l'instant, voilà, ça coince encore. Le DUP, le parti nord-irlandais qui représente 10 députés au Parlement, n'approuve pour l'instant pas cet accord. Hein. Il reproche à ce nouveau deal un manque de clarté sur les conditions autour de la TVA et sur le pouvoir de consentement qui sera donné à l'Assemblée régionale d'Irlande du Nord sur le futur de la région avec le Brexit. Et c'est ce parti, hein, le parti parti nord-irlandais qui détient la clé du vote au Parlement sur cet accord. Boris Johnson a besoin de leur vote car, je vous le rappelle, il n'a plus de majorité. Les 28 députés hard Brexiteurs qui ont toujours voté contre l'accord de Theresa May ont jusqu'ici conditionné leur approbation de ce nouvel accord à celle du DUP, du parti nord-irlandais. Donc voilà, la partie pour l'instant est loin d'être gagnée. Ce vote sur l'accord, il pourrait donc avoir lieu ce samedi, mais ce n'est pas encore totalement confirmé. Les députés britanniques doivent voter tout à l'heure pour savoir si cette session extraordinaire aura bien lieu.
Merci Anaïs Cordoba en direct de Londres et on suit avec vous bien sûr attentivement cette situation à Londres.
Vous écoutez Europe 1, il est midi 5, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
C'est donc une possibilité, Pierre. Le gouvernement pourrait appliquer la réforme des retraites plus tard que prévu.
Oui, et donc reporter ce texte majeur. L'une des raisons, c'est que l'intersyndicale se mobilise le 5 décembre prochain. Emmanuel Dutheil, quelles sont les conséquences d'un potentiel report et quels sont les scénarios prévus par le gouvernement?
Eh bien, jusque-là, ce qui était dans les tuyaux, c'est que la réforme des retraites, qui doit commencer à entrer en vigueur à partir de 2025, devait s'appliquer à partir de ceux nés en 1963, donc ceux qui ont ou vont avoir cette année 56 ans. La nouveauté, c'est que le gouvernement travaille à d'autres scénarios. Première piste que l'on peut trouver dans un document de travail émanant du Haut Commissariat aux Retraites, document que nous avons pu consulter, appliquer la réforme à des personnes nées après 1963 et donc plus éloignées de l'âge de la retraite, le curseur restant à définir. Autre piste, beaucoup plus radicale, appliquer la réforme à partir de 2025, uniquement aux nouveaux entrants à cette date-là sur le marché du travail. Ça changerait bien évidemment tout. Hein. Ça repousserait au calendrier grec véritablement la réforme face à la gronde montante. Hein. Édouard Philippe, qui va débattre ce soir avec des parents d'élèves de cette réforme des retraites à Lons-le-Saunier, avait lui-même laissé entendre ces derniers jours qu'il était potentiellement ouvert à de telles pistes. Donc on voit bien que le gouvernement tente en ce moment de temporiser cette réforme des retraites.
Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Calende grecque, c'est justement une expression qu'emploie Jean-Eudes Duménil, le secrétaire général de la CPME. Il fait partie des syndicats qui craignent que le texte soit totalement enterré.
Il va bien falloir qu'on fasse une réforme. Et simplement repousser dans le temps la réforme en disant on verra plus tard, désolé, mais malheureusement, ce n'est pas une solution. Le plus grave au milieu de tout ça, c'est qu'on voit se dessiner entre les lignes une troisième voie qui consisterait à rentrer cette réforme en application dès 2025 pour les salariés du secteur privé. Et les salariés du secteur public et des régimes spéciaux verraient l'application de la réforme reportée au calende grec. Ça serait quelque chose de tout simplement inacceptable.
Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME, avec Hélène Terzian.
Et puis, il y a ceux qui se satisfont d'un report inédit. C'est le cas de Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière.
Le gouvernement s'aperçoit que son projet est très compliqué à mettre en œuvre. Et je pense même qu'il n'avait pas mesuré la complexité de ce que sera le système universel par points. En réalité, qu'on nous disait plus simple. Là, c'est les transitions qui sont à l'évidence compliquées. Et toutes les précautions que prend le gouvernement pour nous dire on va essayer de garantir les droits acquis dans le système actuel au maximum montrent à quel point le futur système est porteur de recul de droits. Donc, moi, je l'invite non pas seulement à différer la mise en œuvre de son projet, mais à différer l'idée même de réformer un système dont je le redis. Il fonctionne aujourd'hui.
Le secrétaire général de Force ouvrière, Yves Verrier, invité de Mathieu Bellière ce matin sur Europe 1.
Et les midi 8, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Avec une troisième nuit d'émeute, Pierre, à Barcelone, les Catalans protestent toujours contre les sanctions prises contre les indépendantistes.
Et nous retrouvons tout de suite notre correspondant Henri de Laguérie. Henri, la ville panse ses plaies ce matin.
Oui, les voitures calcinées ont été retirées de la chaussée. Des agents sont en train de remplacer les lampadaires dégradés. Des rues sont encore coupées à la circulation. La violence est montée d'un cran hier. De l'acide et des cocktails Molotov ont été lancés contre les forces de l'ordre. Après un silence pesant de 48 heures, le président catalan Quim Torra a condamné hier du bout des lèvres les violences en les attribuant à des infiltrés. Ce n'est pas ce que j'ai constaté cette nuit sur le terrain. Écoutez Auriol.
Non, je ne suis pas un infiltré, mais je crois que le monde doit savoir ce qui se passe ici. Et malheureusement, c'est le seul moyen de nous faire entendre.
Ce soir, on craint le pire à la veille d'une journée de grève générale. Le président catalan est donc sous le feu des critiques. Hier, il participait lui-même au blocage d'une autoroute. Guillaume fait partie de ces 50% de Catalans hostiles à l'indépendance. Il observait hier soir les émeutes depuis le palier de son immeuble. Pour lui, Quim Torra en est le responsable.
C'est une honte. Celui qui doit veiller à la sécurité de ses citoyens est celui qui promeut la violence contre ces mêmes citoyens. Qu'attend l'État espagnol pour intervenir ?
Madrid n'écarte pas une nouvelle suspension d'autonomie de la Catalogne, mais vu le contexte, c'est évidemment très risqué pour Pedro Sanchez.
Merci Henri de Laguéry, correspondant d'Europe 1 en direct de Barcelone. Michel Barnier, le négociateur européen, est en train de s'exprimer sur cet accord. Je vous rappelle qu'un accord a été trouvé entre les différents négociateurs européens sur le Brexit. Je vous rappelle aussi que ce texte doit encore recevoir l'aval du Parlement britannique. Peut-être ce week-end, nous disait Anaïs Cordoba en direct de Londres tout à l'heure. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce stade sur cette avancée majeure sur le Brexit.
Europe 1, il est midi 10.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Retour sur le dossier du voile islamique et la réaction ce matin de Marine Le Pen sur Europe 1. A tout de suite.
Il est midi 12, la suite de votre journal. Pierre Devineau, Raphaël Duchemin.
C'est donc la grande annonce de cette mi-journée. Pierre, un accord sur le Brexit a bien été trouvé. C'est Jean-Claude Juncker qui l'a annoncé.
Oui, accord entre les négociateurs européens. Rappelons quand même tout de même une étape majeure qui se déroulera à Londres ce week-end. Hein, ça sera le Parlement britannique qui devra avaler ou non, en tout cas adouber cet accord ou non. Déjà, le chef de l'opposition travailliste appelle les députés britanniques à rejeter cet accord trouvé par les négociateurs européens. Et en matière de négociation, celui, bien sûr, qui était au front, c'était Michel Barnier et il vient de s'exprimer.
Ce texte, mesdames et messieurs, permet d'apporter de la sécurité juridique, de la certitude, partout là où le Brexit crée, comme toute séparation, de l'incertitude. Et en particulier, et d'abord, pour les citoyens européens au Royaume-Uni, les citoyens britanniques qui vivent dans un de nos États membres, ces citoyens ont toujours été et resteront notre priorité, celle des États membres, et je veux le dire aussi, celle du Parlement européen. L'incertitude pour ces citoyens a trop duré. Grâce à cet accord, leurs droits seront enfin garantis dans la durée.
Les tout premiers mots de Michel Barnier à Bruxelles. Michel Barnier, négociateur européen sur le Brexit.
Europe 1, midi 14, la suite de votre journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Marine Le Pen était l'invitée d'Europe 1. Pierre, ce matin, la présidente du RN a à son tour commenté la polémique autour du voile islamique.
Après Bruno Le Maire, hier sur notre antenne, qui disait que le voile n'était pas un avenir pour la culture française, Jean-Michel Blanquer, bien sûr, qui le jugeait pas souhaitable, et surtout le président Macron, qui hier, souvenez-vous, appelait à ne pas stigmatiser les musulmans. Marine Le Pen, elle, est farouchement contre ce voile islamique parce que selon elle, il est en l'occurrence, et celui en l'occurrence porté par la mère accompagnatrice la semaine dernière, est tout sauf anodin.
Le voile, ça n'est pas une casquette ou un serre-tête. Ça n'est pas un bout de tissu anodin. C'est un marqueur de la radicalité de l'islam. C'est une réclamation depuis de très nombreuses années, d'ailleurs, depuis des décennies, des frères musulmans de voiler les femmes. Moi, je viens dire aujourd'hui à cette antenne, attention, la liberté des femmes, ça n'est pas un acquis. On peut vivre des très graves régressions. Et je pense que c'est donc à nous, société française, de mettre les limites. Et la limite, elle passe, à mon sens, par l'extension de l'interdiction du voile aux accompagnatrices des sorties scolaires.
Marine Le Pen ce matin avec Sonia Mabrouk. Notons que la présidente du RN a toutefois remis en cause l'attitude de Julien Odoul en disant que l'interpellation avait été rugueuse et maladroite, même si sur le fond, il avait posé la bonne question.
Vous écoutez Europe 1 et midi 15, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Vous vous souvenez sans doute du film Police sur le travail de la brigade des mineurs. Eh bien, les enquêteurs ont désormais à leur disposition, dans certains commissariats, une nouvelle salle dédiée aux auditions des enfants victimes d'agressions sexuelles.
On les appelle les salles Mélanie, dispositif qui vient d'être inauguré au sein même du QG de la police marseillaise, qui recueille près de 1500 plaintes par an. Un nouvel outil destiné aux plus jeunes entre 3 et 8 ans. Nathalie Chevance a pu visiter les lieux.
C'est une salle au dernier étage du commissariat qui ressemble à une chambre d'enfant avec des peluches dans les tiroirs. Ici, tout a été pensé pour libérer la parole des petites victimes. David Brugère, chef de la sûreté départementale.
C'est de casser un peu les codes d'un bureau de police classique qui peut freiner la parole de l'enfant. Il n'y a plus d'ordinateur, comme on peut le voir dans les bureaux pour les auditions. Il n'y a pas le va-et-vient des policiers. Donc c'est véritablement le moyen pour les enquêteurs de créer la relation de confiance avec la petite personne victime pour qu'elle soit dans un environnement complètement apaisé.
Et au milieu des jouets, des outils très spécifiques, notamment des poupées de chiffon pour permettre aux enfants de refaire certains gestes. Carole, enquêtrice à la brigade des mineurs.
C'est des poupées donc sexuées, donc il y a vraiment donc le sexe donc de l'homme, le sexe donc de la femme, il y a les orifices. On lui demande comment est-ce que tu appelles cette partie du corps. Quand il nous parle et qu'il nous explique qu'il m'a touché par exemple le mignon, on sait du coup que ça peut être donc son sexe. Ils peuvent comprendre à 3-4 ans que ce qui a été fait ne leur a pas plu.
Déclaration spontanée entièrement filmée pour éviter à l'enfant de se répéter pour plus d'efficacité, souligne le capitaine Marc Roland.
C'est souvent des secrets très lourds à porter. Il faut se rendre compte que les auteurs d'agressions sexuelles, la plupart du temps, sont les parents. Là, la libération de la parole est forcément extrêmement délicate et compliquée.
Mais d'après les enquêteurs, un seul passage dans la salle Mélanie suffit très souvent à libérer la parole des enfants. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Ne faites pas l'idiot, c'est ce qu'écrit Donald Trump à son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Dans cette lettre, le président américain lui demande de stopper l'offensive au Kurdistan syrien. Aujourd'hui, le vice-président et le secrétaire d'État américain sont en Turquie pour obtenir un cessez-le-feu.
Europe 1 est aussi sur place au Kurdistan syrien, Guillaume Perrier a pu recueillir à Kamishli la parole d'un peuple inquiet.
Des brancards maculés sont posés dans l'entrée de l'hôpital de la Miséricorde, dans le centre-ville de Kamishli. La fumée des cigarettes, des médecins, des membres des familles forment un épais nuage dans les couloirs. L'établissement est débordé. Les attaques de l'armée turque et de leur brigade islamiste qui participent à l'opération Source de paix ont amené des combattants et des civils mal en point, souvent plus morts que vivants. Sur son lit, Mohamed Hassan a la peau du visage calcinée, le corps couvert de bandages. Il a été défiguré par les brûlures et se demande encore ce qui lui est arrivé.
Nous avions décidé d'aller manifester jusqu'à Ras Alin, à la frontière, pour soutenir nos combattants. Nous n'avions aucune arme. Nous sommes des civils. Nous étions plus de 400 civils venus de plusieurs villes. Nous avions juste nos voix pour les soutenir et nous faire entendre. Et quand nous sommes arrivés à Ras Alin, l'armée turque nous a bombardés.
Depuis le début de l'offensive, plus de 80 civils ont été tués dans la région, au moins 400 blessés. Les Kurdes accusent la Turquie de viser délibérément les civils. Kamishli, Guillaume Perrier, Europe 1.
Il est midi 18.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Déjà 3 boxeurs morts sur le ring depuis le début de cette année. Et Mein Kampf officiellement réédité l'année prochaine. A tout de suite. Il est midi 21. La suite de votre journal. Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin. Le sport avec Pierre, la mort de Patrick Day, le boxeur américain victime d'un chaos mortel lors d'un combat. Ça s'est passé ce samedi à Chicago.
Et sa mort a été annoncée hier des suites d'une lésion cérébrale. C'est le 3e boxeur qui meurt sur un ring cette année. Est-ce que les autorités de la boxe mondiale vont rester sans rien faire, Christophe Lamarre ?
Non, elles n'ont pas l'intention de rester les bras croisés. Le combat va être décortiqué, c'est déjà le cas, pour comprendre ce qu'il s'est passé exactement à la Wintrust Arena de Chicago. Il reste moins d'une minute 20 dans la 10e reprise. Patrick Day affronte son compatriote américain Charles Conwell. Ce dernier le touche 3 fois. Le premier crochet droit vient le frapper derrière l'oreille. Le deuxième au visage et le troisième crochet, du gauche cette fois, l'envoie au tapis. Patrick Day est au sol, son corps est pris de convulsions. Une fin tragique, mais cela reste une exception en boxe, rappelle le docteur Alain Mazot. Il est médecin de coin, comme l'on dit. Il a assisté 4000 combats et n'a jamais déploré le moindre décès. Il ne se retranche pas derrière la fatalité, mais regrette que les entraîneurs ne jettent pas l'éponge plus souvent.
Ils ont toujours espoir qu'un coup va changer la face du combat et va sauver leur boxeur. Même s'il est mené, même s'il est archi mené, ils ne prennent pas conscience que les coups se répètent. Alors ils se répètent sur un même combat, mais ils se répètent sur l'ensemble des combats et ils se répètent sur l'ensemble d'une carrière. Il ne faut pas oublier qu'à la fin d'une carrière qui est relativement brève en boxe, comme dans les autres sports professionnels d'ailleurs, il y a une vie, il y a la vie. Et il faut absolument protéger les gens pour leur vie future.
Patrick Day est le 3e boxeur mort sur un ring cette année.
Merci Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1.
Le JDD nous apprend ce matin que Fayard publiera Mein Kampf, le pamphlet antisémite d'Adolf Hitler, En 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, Nicolas Carreau s'est décidé.
C'est presque prêt, a confié le chef de ce projet polémique, Florent Braillard, historien et chercheur au CNRS. On ne connaissait pas la date exacte de publication, mais on savait depuis 2010 que l'éditeur travaillait sur ce projet de réédition. Mein Kampf, je rappelle, Mon combat, signé donc Adolf Hitler, publié en 1925. Ce sont toutes les thèses antisémites et racistes d'Hitler et les méthodes de propagande aussi, le livre de chevet en fait des néo-nazis. Alors en quoi consiste cette nouvelle édition ? D'une nouvelle traduction d'abord, la dernière avait vieilli selon l'éditeur et surtout, c'est la publication aussi d'un appareil critique de 1000 pages qui va avec.
Et le livre, pourtant, est facilement disponible, Nicolas.
Oui, Mein Kampf n'est pas du tout interdit en France. N'importe quel libraire peut vous le procurer, il suffit de lui demander, ou sur le web, hein, ça se trouve très très facilement. La seule différence, c'est qu'il n'est pas accompagné justement d'un texte de présentation qui met en garde le lecteur.
Et puis, on peut le trouver, effectivement, en librairie. Votre libraire peut le commander.
Et voilà,
et sur Internet, on peut le trouver, même des PDF.
Soit en format livre en le commandant ou en PDF gratuitement.
Merci beaucoup, Nicolas Carreau. Je vous rappelle la principale information de ce journal. Michel Barnier se félicite de cet accord qui a été trouvé entre les négociateurs européens. Accord sur le Brexit. Pour l'instant, on le rappelle, c'est un accord liminaire au niveau européen, sachant que, évidemment, ce texte devra recevoir l'aval des députés britanniques. Déjà, le chef d'opposition travailliste appelle tous les députés à le rejeter. Idem pour les unionistes d'Irlande du Nord.
Nous y reviendrons évidemment très largement tout à l'heure avec vous, Pierre, dans le journal de 13h. Il est midi 25. Europe 1.